Il est 21h. Vous êtes sur CAN, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro. Yael Bornstein, en technique avec moi, Michael Olschwang. Vous êtes sur CAN en français. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, c'est le 8 mai 2024, 215e jour de guerre contre le Hamas. Une journée nouvelle de tirs incessants à la frontière nord du pays, de nombreuses alertes aussi dans les localités du sud, proche de la bande de Gaza. Un bref entretien entre William Burns, le chef de la CIA, et le premier ministre Benjamin Netanyahou, le chef du Mossad, le chef du Shabak aussi. Et puis cette bombe, c'est le cas de le dire, les Américains qui suspendent pour l'instant leur soutien militaire envers Israël. Pouvons-nous vraiment nous en passer, comme le prétend chaque jour Benjamin Netanyahou? Notre ministre de la Défense annonce un été brûlant lors de son entretien avec les soldats en poste dans le nord du pays. Pendant ce temps, vous avez prévenu, les prix ont flambé. Yael Ifra nous parlera du ping-pong de responsabilités apparemment extrêmement urgent entre le Premier ministre Netanyahou et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Et surtout, si cette montée des prix est réellement fondée, si elle est nécessaire, Yael Ifra sera l'invité de cette édition dans quelques instants. Dans le magazine de ce soir, on va enfin se détendre un peu. Je recevrai Virginie Gedge qui nous présentera son second spectacle En guerre. Un spectacle qui se joue aussi bien en France qu'en Belgique, et en Israël aussi, très prochainement. D'ailleurs, elle nous parlera de son vécu depuis le 7 octobre, comment on arrive du rire aux larmes en tenant un miroir que nous ressentons tous. Mais avant tout cela, voici le journal d'info et tout d'abord les titres.
Le Flash Info de CAN, la radio publique israélienne, présentée par Yael Bornstein.
La police a annoncé le décès du commandant Yatev Lev Halevi, le commandant et combattant des forces de défense israéliennes réserviste qui a été mortellement blessé à Tul Karem. Samedi dernier, il a été transporté à l'hôpital Belinson de Petah Tikva où les médecins se sont battus pour lui sauver la vie pendant ces derniers jours. Il était le fils de Yoram Halevi, l'ancien commandant des gardes-frontières. Nouvelle tension entre Washington et Jérusalem après l'annonce américaine de la suspension, en tout cas temporaire, des envois d'armes vers Israël en réaction à l'incursion israélienne terrestre à Rafah. De nombreuses alarmes, je vous le disais, ont été entendues dans tout le nord tout au long de la journée après que le porte-parole de Tzal a déclaré que l'armée de l'air avait mené une vaste attaque contre plus de 20 cibles du Hezbollah dans la région de Ramiar, au sud du Liban en utilisant des avions de combat et des explosifs secondaires indiquant la présence de dépôts de munitions sur le site. En outre, des avions de combat ont récemment attaqué une structure militaire du Hezbollah ainsi qu'une infrastructure terroriste dans les régions de Marvin et Kafar Kila au sud Liban. Le chef des forces navales du Hamas à Gaza a été éliminé lors d'une frappe aérienne. Ahmed Ali, selon l'armée, a été impliqué dans les attaques contre Israël et les troupes dans la bande de Gaza pendant la guerre. Le chef de l'état-major Herzl Levy a annoncé le départ en retraite anticipée de 3 généraux, notamment Ofer Winter, une décision vivement critiquée par les 2 ministres Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Et puis 2024 à Tel Aviv, et bien sans Gay Pride, le maire Ron Huldaï a annoncé qu'il n'y aurait pas de Gay Pride cette année. Une année qu'il considère inadéquate pour se réjouir, encore moins pour faire la fête. À Jérusalem, on a décidé de marquer le coup, mais de ne pas annuler le défilé qui sera placé cette année, lui aussi, sous le signe de la lutte du retour des otages. Et enfin, la première demi-finale de l'Eurovision hier avec la qualification de la chanteuse israélienne Tal, qui chante pour le Luxembourg. Et surtout le geste de provocation du chanteur suédois Erik Saade avec son kaffir autour du poignet. Une démarche hautement réprimandée par l'organisation. Demain, notre Eden national fera le mieux possible pour accéder à la finale qui aura lieu samedi soir à Malmö. Profonde frustration, je vous le disais, au sein du gouvernement israélien suite à la décision américaine de suspendre une partie des livraisons d'armes. C'est ce qu'a rapporté la chaîne NBC sur une source israélienne qui a déclaré que les tensions entre les parties étaient était forte en raison du sentiment de surprise suscité par l'annonce du Hamas en acceptant l'ordre de cesser le feu. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a commenté le retard des expéditions d'armes vers Israël en déclarant « Nous examinons actuellement l'assistance à la sécurité à court terme dans le contexte des événements qui se déroulent à Rafah et des combats. Les munitions ont été retenues. Les États-Unis n'ont pas encore déterminé comment procéder face au retard de l'envoi vers Israël », c'est ce qu'il a noté. Par ailleurs, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a déclaré quant à lui, lors d'un point presse, que les États-Unis envisageaient de retarder d'autres livraisons d'armes à Israël compte tenu des actions d'Israël dans le passé. Israël ne nous a pas présenté de plan approprié pour résoudre ces problèmes. Nous avons arrêté une expédition et nous en examinons d'autres, mais notre engagement à long terme envers Israël n'a pas changé. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes que les négociations sur l'accord de cessez-le-feu et la libération des otages se poursuivaient et a affirmé qu'Israël et le Hamas étaient suffisamment proches d'un accord pour pouvoir combattre les divergences et les combler. Biden a confiance en son équipe qui assiste dans les négociations. Entre-temps, des responsables proches des négociations sur l'accord ont déclaré que la proposition du Hamas était très loin de celle qui a été acceptée fin avril. Si le Hamas ne revient pas à la proposition initiale, eh bien, il ne sera pas possible de parvenir à un plan convenu. Par ailleurs, environ 300 manifestants participent à une marche depuis la rue d'Ibn Gvirol à Tel Aviv vers la porte de Begin au quartier général de la Kiria à Tel Aviv, appelant à la libération des otages. En tête de la manifestation, des membres des familles des otages qui défilent en brandissant les photos de leurs proches à l'ombre du début de l'opération dans le sud de la bande de Gaza. Les manifestants brandissaient une pancarte lisant « Non à Rafah, oui aux otages ».
Politique, économie, consommation israélienne, l'analyse et l'expertise de Yael Ifra.
Bonsoir Yael.
Bonsoir Yael.
On a eu un petit peu de mal à vous obtenir, ça doit être un problème technique.
Désolée.
Ah non, oui. Alors si c'est vous, alors c'est pas grave, vous êtes pardonné.
C'était moi. Ah, bon, ça n'a pas sonné.
D'accord. Alors, en tout cas, on est ravis de vous avoir. C'est une. On n'est pas très surpris. Hein. Vous nous en aviez parlé, la flambée des prix. Avant d'en parler, je voudrais vous demander cette espèce de ping-pong de jeter la patate chaude entre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, et son ministre des Finances, Bezalel Smotrich, de se rejeter la responsabilité, notamment du manque de soutien à l'import, comme ce qui devait être prévu pour, si j'ai bien compris, la prochaine réouverture de la Knesset, hein, même pas la première semaine d'ailleurs. Et puis surtout cette flambée des prix. Il faut que vous nous expliquiez si c'était vraiment nécessaire de faire ça maintenant, en pleine guerre. Si on n'a pas un peu de répit, je ne sais pas. C'est
oui.
Une question.
On ne sait pas très bien quoi dire, Yael, parce qu'on est tout simplement stupéfait par l'amateurisme, par le cynisme, par l'impuissance d'un gouvernement qui, quand il s'est formé, avait quand même déclaré que le coût de la vie était une de ses priorités. Alors, on comprend bien qu'on est en guerre, bien entendu, mais on voit que les différents ministres trouvent tout à fait le temps pour s'occuper d'énormément autre chose que la guerre. Bezalel Smotrich a exigé le ministère des Finances, mais il s'intéresse essentiellement évidemment à son deuxième poste, celui de ministre au ministère de la Défense, pour lequel il a obtenu des très larges compétences sur l'administration civile, qui est évidemment un poste beaucoup plus idéologique et qui convient beaucoup plus à qui il est. Et en fait, il a totalement abandonné ce sujet. Alors oui, au début, tout au début, lors du budget qui a été passé donc en mai de l'année dernière. Souvenez-vous qu'on a passé un budget biannuel pour garantir la stabilité du gouvernement. Il y avait eu une série de réformes qui avaient été annoncées, dont d'ailleurs la plupart ont disparu de la loi des arrangements. On en avait parlé, souvenez-vous, l'histoire de démanteler les monopoles. Voilà. Bon, il était quand même resté un certain nombre de réformes. Et en plus, Nir Barkat était aussi monté au créneau sur le même sujet, celui donc, comme on a dit, la réforme des importations, dont on parle maintenant depuis que je suis arrivée en Israël, on en parle sans cesse, et qui n'a toujours pas eu lieu. Et donc, on peut dire que rien ne se serait passé comme d'habitude si on ne s'était pas trouvé dans cette conjecture terrible où toutes les marques, on va en parler après, mais où toutes les marques et tous les importateurs, les uns après les autres, ne cessent d'augmenter les prix. Et donc là, effectivement, je pense que Benjamin Netanyahou est beaucoup plus à l'écoute du terrain que Bezalel Smotrich. Hein, vous savez qu'il fait réaliser des sondages quasiment quotidiennement pour prendre la température de l'opinion. Bon, et donc j'imagine que il s'est rendu compte que le problème du coût de la vie en Israël et de ces augmentations de prix préoccupait fortement les citoyens, parce qu'en fait c'est le cas hein, quand on n'est pas ministre ni député, qu'on n'a ni voiture de fonction ni salaire de 50 000 shekels par mois. Bah du coup, on trouve que quand les prix n'arrêtent pas d'augmenter, c'est problématique. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a eu une espèce de... Alors, donc, Netanyahou, selon ce qu'a raconté Yuval Karni dans le journal Yediot hier, aurait tenté de joindre Bezalel Smotrich, enfin, pas tenté de joindre, on se comprend bien, demander de faire fixer, donc de faire se réunir le fameux cabinet du coût de la vie. Hein, donc, il y a un cabinet spécial, hein, cabinet ministériel. Et Bezalel Smotrich, lui... fait répondre, selon toujours cet article, que c'était vraiment pas le moment de s'occuper du coût de la vie. D'abord, on n'a qu'à rentrer à Rafiyar, s'occuper de ça, et après, on verra pour le coût de la vie. Et apparemment, Netanyahou aurait été furieux. Bon, voilà. Donc, ça a fuité dans les journaux. On ne sait pas très bien qui a fuité, mais probablement Netanyahou. Et donc, du coup, Bezalel Smotrich, furieux, a jugé bon sur Twitter de faire savoir que tout était faux, que ce n'était pas vrai, que oui, bien sûr, le coût de la vie, ça l'intéresse. Mais en fait, le coût de la vie, ça n'intéresse pas du tout. Hein. On s'en rend très bien compte. En fait, ça n'intéresse personne. Et on se retrouve avec des politiques qui se conduisent comme des enfants de 5 ans, alors qu'il s'agit quand même de l'équilibre économique de nombreux ménages. Je ne veux absolument pas minimiser l'importance de la menace sécuritaire sur le pays, Yaël. C'est très important de le dire, on est en guerre. Et évidemment, c'est ce qu'il y a de plus bien important. Sûr. Ça ne veut pas dire que rien d'autre ne compte. Que je sache, le pays, enfin l'État d'Israël n'a pas décidé de distribuer de l'argent à tout va à ses citoyens. Non. Or, tout coûte de plus en plus cher et les ressources ne sont pas infinies. Donc on ne peut pas non plus demander aux gens de faire comme s'il ne se passait rien, alors que le taux directeur a beaucoup augmenté, que certaines personnes, depuis maintenant plus d'un an, payent plus de 1000 shekels supplémentaires par mois sur leur remboursement de crédit, que de nombreuses personnes ont perdu leur travail, ont été déplacées, se trouvent dans une situation économique fragilisée. Ce n'est pas le moment de ne pas s'occuper du fait que certains prix ont augmenté de 20-25% pour la 2, 3, 4e fois cette année.
Alors, on en revient un peu toujours à la même chose, Yael, mais la flambée des prix, elle est justifiée par l'augmentation des matières premières. J'ai entendu parler notamment du cacao, j'ai entendu parler de certains produits qui ont augmenté au niveau de la matière première. Peut-être que finalement, c'est pas tellement impensable d'augmenter, même peut-être temporairement, les prix. J'en sais rien, c'est une question.
Bah, si tout Israël se nourrit que de chocolat, peut-être, mais je pense que ce n'est pas le cas. Donc non, en fait, ces flambées des prix ne sont absolument pas justifiées.
Donc il y a peut-être pas que le cacao, c'est pas tout.
Non, il y a eu, en fait, c'est le cacao et le café qui ont augmenté, mais en fait, les autres matières premières, pas du tout. Donc, il y a eu un article très intéressant la semaine dernière dans le quotidien économique Globes, qui rapportait donc des analyses économiques qui sont pas disponibles pour le grand public, mais qui sont destinées aux investisseurs, qui ont été réalisées par deux économistes en chef de deux investisseurs institutionnels importants. Donc l'un, c'est une banque, la banque Hapoalim. Donc je me souviens plus exactement de son nom, je crois que c'est Dror Mishri, donc qui est l'économiste en chef de la banque Hapoalim. Et la deuxième, réalisée par Alex Zarzynski, qui est l'économiste en chef de Meitav. Donc, quelqu'un de très, très reconnu, qui est très, très souvent interviewé parce que c'est quelqu'un qui analyse la conjoncture économique en permanence. Et ben, les deux, donc, la question que Globes posait, c'était, les augmentations de prix sont-elles justifiées? Et comment dire? Globes ne peut pas du tout, ni ces deux économistes, être soupçonnés d'être de violents anticapitalistes, hein. Et donc, tout le monde répond que non, absolument pas, ce n'est pas justifié. Donc, on rappelle d'abord, pour l'histoire des transports maritimes, que oui, les transports maritimes ont augmenté au début de la guerre en raison de la menace des Houthis. Mais depuis, une coalition internationale a été mise en place. Les États-Unis ont déployé un parapluie. l'économie et le coût du transport du fret maritime a baissé pour la 13e semaine consécutive, donc la semaine dernière. Ensuite, il en parle du prix des matières premières, donc or, cacao, qui d'ailleurs a commencé déjà aussi à baisser très fortement, et le café idem, pour des matières premières comme par exemple le blé. Il est revenu à son coût d'avant-guerre en Ukraine depuis déjà très longtemps. Les céréales donc sont en baisse. Le coût du travail, soi-disant, il aurait augmenté. Le salaire minimum a augmenté en Israël de 5%. Mais l'économiste de Meitav nous fait remarquer que dans l'industrie alimentaire, justement, les augmentations de salaire ont été très modérées. Et il donne pour seule justification possible l'augmentation de la Arnona, donc qui a augmenté, je crois, de 2% cette année, ainsi que l'augmentation du coût de l'énergie, puisqu'effectivement, l'essence a augmenté, l'électricité a augmenté, mais il ajoute immédiatement que, évidemment, ça ne peut pas justifier des hausses qui sont des hausses transverses. Ça veut dire on augmente tous les produits d'une même marque, ça n'a vraiment aucun sens, qui vont des fois atteindre des 15 à 20%. Donc, ça n'est évidemment pas justifié. Bon, ces chiffres, Yael, sont complètement délirants. Imaginez n'importe quel autre pays développé avec.
Alors, c'est ça que je voulais vous demander. Je suis navrée de vous couper, mais c'est ça que je voulais vous demander. Avec toutes ces réflexions qu'on se fait, et elles sont vraiment systématiques depuis tellement de mois, tellement d'années, et vous dites, on est des pigeons en Israël, on fait rien, on se rebelle pas en tant que consommateur. Est-ce que c'est un phénomène que vous voyez uniquement en Israël, ou est-ce que vous voyez des gilets jaunes dans d'autres pays qui se révoltent contre le prix de l'augmentation des prix de l'essence, le coût de la vie chère? Parce que on a eu des détentes sur Rothschild, ça a commencé comme ça, la vie chère, le Milky, on s'en rappelle tous en j'allais dire 2008, mais peut-être que je me trompe. Enfin,
2011. Oui, vous avez tout à fait raison.
Donc, bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas dans un système où on se dit, bon, attends, c'est pas le moment aujourd'hui, ça peut pas être ma priorité, je dois me battre sur tellement de terrains différents, j'ai la guerre, j'ai les enfants, j'ai les problèmes financiers qui avaient commencé avant les augmentations de prix, etc. Puis en fait, les gens se disent, je peux pas être partout, donc je fais rien, et ben j'attends que ça se passe et que quelqu'un le fasse à ma place, sauf que personne le fait à leur place.
Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous avez raison, vous avez dit plein de choses qui expliquent. Donc, d'une part, les gens peuvent pas être partout. C'est un problème qui est considéré comme tellement vaste, ayant tellement de tenants et d'aboutissants que c'est quasiment impossible de trouver un fil par lequel l'attraper et tirer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on manque d'institutions suffisamment fortes, d'associations de consommateurs qui soient reconnues par l'État. J'explique toujours que l'économie israélienne est passée d'un État quasi administré, quasi soviétique, à une économie ultra-libérale avec des entreprises qui se conduisent de façon comme des voyous. Donc, il n'y a pas suffisamment de gouvernance, pas suffisamment de normes de gouvernance d'entreprise. Ici, quand l'État privatise, il privatise à 100% et il ne va pas réglementer correctement derrière. Donc, un défaut de réglementation. On a aussi en Israël un défaut de courage politique. Bon, ça, c'est pas la peine de le dire. Ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Et quant aux citoyens consommateurs, c'est pas que ce sont des pigeons. C'est que d'une part, ils n'ont pas été éduqués. Éduqués, c'est pas du tout quelque chose de surplomb, que je dis. C'est simplement que la consommation, le rapport qualité-prix, la structure d'un prix, c'est des choses qui s'enseignent. On fait des campagnes, l'État participe. Voilà. Donc en Israël, ce n'est pas le cas. Les gens sont laissés à eux-mêmes dans les supermarchés, l'information sur les produits est insuffisante, il n'y a pas systématiquement, par exemple, le prix au kilo, le prix au litre ne figure pas, ce qui rend la comparaison
impossible. Ouais.
Voilà, si on prend un exemple important qui est l'exemple de l'alimentation, l'histoire de la disposition dans les rayons est complètement aberrante. Si vous regardez dans les rayons frais, les produits sont disposés par marque et non pas par catégorie. Donc, si vous avez d'une part les yaourts Danone, bien sûr, c'est parce que pour économiser de l'argent, en fait, ce sont les marques qui mettent leurs produits en rayon.
Oui, j'ai vu ça.
Tous les problèmes en plus de disposition des petites marques qui sont systématiquement poussées derrière, voire même jetées ou recouvertes par d'autres marques. Donc ça, c'est, en principe, c'est interdit, mais c'est quand même fait. Personne ne fait appliquer la loi. Et donc, vous ne pouvez pas comparer si vous devez faire 3 mètres à chaque fois pour retourner en arrière, pour retrouver, ah oui, c'était quoi déjà le prix du yaourt là-bas de l'autre marque. Donc, il y a plein d'éléments qui font qu'on n'aide pas les consommateurs, on n'aide pas les citoyens. Et en plus, il y a un dernier élément, un élément qui est un petit peu psychologique selon moi. Israël est un pays qui s'est enrichi très très vite. Et donc, les prix chers, c'est un biais cognitif important, c'est l'impression d'être riche quand on paye cher. C'est pas juste, c'est cher,
oh là là.
C'est si je paye cher, c'est que je dois être riche. C'est comme avec l'immobilier, hein. C'est la même chose, c'est toujours la même chose. Mon appartement vaut 5 millions, oui bien sûr, mais si vous vouliez en acheter un autre, ça serait 6, donc ça ne changerait rien. 5 millions, c'est bien si vous vendez et que vous allez acheter après, je ne sais pas moi, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ce n'est pas le cas.
Qui sont des grands fans d'Israël par ailleurs.
Voilà, exactement. Donc en fait, c'est un ensemble, c'est tout un système qui ne fonctionne pas. Mais cela étant, il faut quand même remarquer qu'à chaque fois qu'il y a des élections, à chaque fois qu'on a une campagne, les candidats sont tout à fait capables de soulever le problème du coût de la vie, d'en parler, de dire qu'ils vont le résoudre, d'être donc conscients que ça représente une problématique très très lourde dans la vie des Israéliens et de trahir leur électorat.
Bah, toujours avec la guerre d'après, en justifiant voilà. Ça par le...
Guerre ou autre, hein, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas ma faute, etc. Mais ce qu'il en reste en fait, Yael, c'est une surpuissance des entreprises qui se permettent de se conduire exactement comme elles veulent en toute impunité. Je n'ai pas entendu que qui que ce soit ait dit qu'il faut boycotter tout Strauss, tout diplomate. D'abord, ce n'est pas possible. On ne sait pas qui sont les produits, ce n'est pas toujours marqué. Et donc, il y a quand même une certaine trahison de la classe politique envers un électorat auquel il promet sans cesse de régler ce problème et qu'il ne le fait pas, mais même pas à minima. Puisque là, on ne parle même pas de prix qui n'augmentent pas. On parle de prix qui ne cessent d'augmenter, d'une impuissance totale des politiques, ou du moins d'une indifférence des politiques, et d'une idée que, bon, bah, voilà, le petit peuple, il faudra un petit peu qu'il arrête de râler, et il y a toujours des problèmes plus importants. Et puis, on a mis les mauvaises personnes à la mauvaise place. Je ne parle pas ici de Benjamin Netanyahu qui occupait de ses problèmes persos, mais s'il voulait traiter le coût de la vie, je pense qu'il pourrait très bien le faire. Mais je parle évidemment de Bezalel Smotrich, qui est le pire ministre des Finances qu'Israël ait jamais connu, puisque, en fait, il ne fait strictement rien. Il détruit il est en train de détruire totalement le département budgétaire du ministère des Finances en plaçant des gens à lui partout, en ne respectant pas les décisions professionnelles, ce qui est inédit dans l'histoire d'Israël. Et on voit bien, le déficit va augmenter encore cette année. On prévoit encore une augmentation l'année suivante. La dette, on ne pourra pas l'augmenter indéfiniment. On parle déjà d'augmenter la TVA de plus d'un point et beaucoup plus vite que l'année prochaine. On parle d'augmentation d'impôts, voire même d'une taxe sur les super profits. C'est pour vous dire comment ça va mal, hein, pour qu'on envisage quelque chose comme ça en Israël. Et donc, je peux vous dire que pour ce qui est des consommateurs, des prix à la consommation, des aliments, etc., les entreprises peuvent se frotter les mains. Elles ont des beaux jours devant elles, car personne ne va leur barrer le chemin.
Yael Ifra, merci beaucoup pour cet éclairage. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de Canon Français.
Merci Yael.
À la frontière nord, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a prononcé ce matin une évaluation de la situation dans la 91e division où il a déclaré aux combattants, je cite, « Je suis déterminé à ramener les habitants de la région chez eux en toute sécurité et à reconstruire tout ce qui aura été détruit. Je suis conscient de la nécessité et à bien des égards du sentiment que cette mission n'est pas achevée. En fait, elle n'est pas terminée. Il faut se préparer à ce qui va arriver et cet été sera vraisemblablement brûlant. Gallant a également déclaré « Une bataille défensive est une bataille complexe, c'est une bataille dans laquelle vous attendez constamment les réactions de l'ennemi, mais vous êtes actif et je pense que toute la division mène cette bataille d'une excellente manière. Nous avons poussé le Hezbollah des lignes de contact à des distances considérables, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il a totalement disparu. Pour Gallant, ramener les résidents en toute sécurité est un processus d'accord, un processus opérationnel. Il est du devoir de Tsahal de préparer ce processus qui sert également de point d'ancrage et d'enclume pour d'autres démarches du futur. Je suis déterminé à ramener chez eux les habitants en toute sécurité. Nous nous efforçons d'arriver à une situation sans parvenir à la guerre, mais si c'est le dernier point de départ, eh bien, nous saurons comment y recourir, car en fin de compte, nous avons l'obligation de mettre en œuvre notre contrat avec nos citoyens. Nous disposons de moyens de tir très importants et très lourds, et nous veillons à les activer si besoin est. Vous avez fait preuve jusqu'à présent, je pense, de manière impressionnante. Maintenant, vous devez vous préparer pour le reste et cet été pourrait être chaud. Le message est passé. Dans le sud, un avion de l'armée de l'air a éliminé le terroriste Ahmed Ali, le commandant de la force navale du Hamas dans la ville de Gaza. C'est ce qu'ont déclaré Tsahal et le Shin Bet, ajoutant que pendant la guerre, Ali avait encouragé des activités offensives contre le territoire israélien et de nouvelles attaques contre les forces opérant dans la bande de Gaza. Ces dernières semaines, il aurait aussi œuvré à promouvoir des attaques contre les forces de Tsahal opérant dans le couloir au centre de la bande de Gaza. Dans le cadre de ses fonctions, Ali a été impliqué dans la gestion de projets pour la force navale du Hamas dans la bande de Gaza. Par ailleurs, les forces de Tsahal ont pris le contrôle opérationnel du passage de Rafiar. Plus tôt dans l'après-midi, ils ont éliminé environ 30 terroristes. Ils ont par ailleurs opéré contre de nombreuses infrastructures terroristes dans la région. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de Tsahal, qui a ajouté que les forces ont attaqué les infrastructures terroristes entourant le côté de Gaza et inspecté des bâtiments suspects à partir desquels les terroristes du Hamas tiraient sur les combattants. Avec l'entrée des forces, aurait-on apporté des avions de combat, ont attaqué environ 100 cibles depuis les airs. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes que les négociations sur l'accord du cessez-le-feu et la libération des otages se poursuivaient, affirmant qu'Israël et le Hamas étaient, je cite, « suffisamment proches d'un accord pour pouvoir combler les divergences ». Biden a confiance en son équipe qui assiste dans les négociations, a-t-elle ajouté. Entre-temps, des responsables proches des négociations sur l'accord ont déclaré que la proposition du Hamas était très loin de celle qu'Israël avait acceptée fin avril. Si le Hamas ne revient pas à une proposition initiale, eh bien, il ne sera pas possible de parvenir à un plan convenu. Alevi, qui a par ailleurs rencontré aujourd'hui le général de brigade Ofer Winter pour l'informer de son départ anticipé à la retraite. Idem pour le général de brigade Yaniv Alalouf, et qui était le commandant de division de Judée-Samarie. Et enfin, le général de brigade Yoram Knafo, qui était le chef de la division du personnel. Il les a également informés qu'il avait décidé qu'il ne serait pas promu et qu'il prendrait donc leur retraite anticipée de l'armée. Une décision que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a vivement critiquée, adressant spécifiquement au ministre de la Défense, Yoav Gallant, que la conduite imprudente et responsable de Gallant de renoncer à un officier exceptionnel et apprécié comme Ofer Winter était une continuation directe de sa mauvaise conduite et de ses omissions au cours de ces derniers mois. C'est ce qu'a affirmé Ben-Gvir. Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, qui en a rajouté une couche, s'est également prononcé en déclarant que le retrait de Winter était une erreur à bien des égards. Le chef de l'état-major n'aurait pas dû s'engager dans des nominations et des changements de poste. Ceux qui sont responsables de l'échec militaire sont parmi les plus grands que nous n'ayons jamais connus capables de bâtir l'armée de la prochaine génération. Winter est un officier offensif qui ne faisait pas partie du complot. Ce sont toujours les mots de Bezalel Smotrich. Et il se trouve limogé en pleine guerre. C'est le monde à l'envers. Le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, a annoncé l'annulation du défilé de la fierté de cette année, la Gay Pride. Dans son compte sur le réseau X, il a écrit, je cite, « Ce n'est pas le moment de faire la fête en coordination avec les organisations de la communauté LGBTQ+. Nous avons décidé que cette année, nous organiserions un rassemblement en signe de fierté, d'espoir et de liberté. 132 de nos fils et de nos filles sont toujours kidnappés à Gaza. Selon lui, Tel Aviv Jaffa est le foyer de la communauté gay et elle le sera toujours. Fort de notre grand engagement envers celle-ci, nous avons décidé cette année de détourner une partie du budget destiné à cette production millénaire du défilé de la fierté en faveur de l'activité du centre communautaire LGBTQ+ de la ville. Mais à Jérusalem, l'organisation qui s'occupe des événements de la fierté dans la ville a annoncé que le défilé aurait lieu cette année, mais dans un format spécial, dans le cadre de la lutte du retour des otages. Selon le communiqué de l'organisation, le défilé qui aura lieu le 30 mai sera adapté à l'air du temps et se déroulera sur le parcours traditionnel de la marche. Selon lui, le défilé de la fierté et de la tolérance à Jérusalem est un événement de protestation et a un caractère différent de celui de Tel Aviv. C'est la raison pour laquelle il continuera à avoir lieu cette année également. On va s'envoler pour Malmö, même si on n'a pas très envie d'y aller en ce moment. On n'y est pas très bien reçu. Je vous rappelle qu'il y a eu lieu hier la première demi-finale de l'Eurovision. Évidemment, à noter le geste d'Erik Saade, le chanteur suédois. C'est un genre de prise de position politique que les organisateurs ne voulaient pas voir sur la scène de l'Eurovision. En ouverture, le chanteur Erik Saade a interprété une version réorchestrée de Popular, une chanson qu'il avait présentée et avec laquelle il avait fini troisième en 2011 et que j'aimais bien malheureusement. Et autour de son poignet gauche, et bien tenant son micro, il avait entouré un keffieh, un geste de soutien au peuple palestinien qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. L'Eurovision est un spectacle en direct. Tous ceux qui s'y produisent connaissent les règles et nous regrettons qu'Erik Eric Saadé ait décidé de transiger avec l'idée de compétition neutre. C'est ce qu'a réagi immédiatement l'organisation auprès du quotidien suédois Expressen. Il est né d'une mère suédoise et d'un père libano-palestinien. Eric Saadé s'est donc indigné ces derniers mois qu'Israël était autorisé à prendre part à la compétition. Ce week-end, après que sa présence sur la scène de la première demi-finale a été annoncée, il a expliqué ses motivations dans un post en story sur Instagram. Quand vous n'êtes plus en mesure de porter un symbole de votre ethnicité dans votre prétendu monde libre, il est plus important que jamais pour moi de participer. Les symboles palestiniens ne sont pas autorisés à l'intérieur de l'aréna. Quand d'autres symboles représentant d'autres ethnicités sont les bienvenus, vous pouvez interdire nos symboles, mais vous ne pourrez pas ôter ma présence. Ce sont ces mots. Le règlement en place de l'Eurovision depuis 2017 autorise uniquement les drapeaux des pays participants. C'est pour ça que le drapeau israélien est permis, ainsi que la bannière arc-en-ciel de la communauté LGBTQ+. Nous voulons éviter que la salle devienne une plateforme pour des messages politiques. C'est ce qu'a déclaré Ebba Adielson, la productrice de l'édition 2024 à Expressen. Et bien sur ça, on va terminer avec la météo pour demain jeudi. Le temps sera lumineux, une augmentation notable par contre des températures se fera sentir. Il fera beaucoup plus chaud qu'à la norme saisonnière au nord du pays. Des vents d'est modérés, voire forts, commenceront à souffler en début d'après-midi. Les maximales à Jérusalem et Haïfa, 31 degrés, à Tel Aviv 30, à Tibériade de 33, à Tzfat 27, à Ashdod 28, Beersheba 35 et Eilat 36 degrés. Il est 21h31 et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au micro, c'était Yael Bornstein. En technique avec moi, c'était Michael Holschwang. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 21h pour votre rendez-vous avec l'information. Dans quelques instants, on va prendre un petit moment de répit, de repos avec Virginie Gage qui nous présente son dernier spectacle que vous pouvez suivre sur nos réseaux sociaux et sur le 101.3 FM. À demain et portez-vous bien.
Envole-moi.
littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Cannes en français. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir une amie de Cannes en français, une ancienne consoeur journaliste aussi. En fait, tout simplement une personne qui sait écrire et qui s'est reconvertie vers 2019, qui a eu ses scènes et ses dates à deux jours du premier confinement, vous comprendrez l'ironie. Elle s'est reconvertie en humoriste grâce à son humour, à sa répartie. Bonsoir, Virginie Gage.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Je ne vous demande pas comment vous allez. Ça ferait de l'ombre aux réponses hilarantes que vous donnez.
Bah, je pense comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais par contre, je me suis beaucoup battue pour qu'on continue à se demander comment ça allait. Parce qu'après le 7 octobre, on avait un peu ce sentiment de dire que c'était une question qu'on ne pouvait pas se poser, ouais. À laquelle, on ne savait pas quoi répondre. Mais je commence à remiliter pour le comment ça va. Même si j'ai pas de réponse.
Ah, donc vous avez pas de réponse, mais vous militez pour la question.
Oui, parce que je pense qu'il faut qu'on continue pour la santé mentale de tout le monde à se demander comment ça va.
Ouais. On a souvent ce genre de, on a souvent après que Dieu nous en préserve après le décès d'une personne. Bon, je vous demande pas comment ça va. Bah en fait peut-être
oui,
si
voilà,
demandez-moi comment ça va. En fait si demandez-moi comment
oui,
je vais
ça.
Parce que peut-être
mais
que j'ai besoin de quelque
que,
chose.
Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça quand on est dans un espèce de deuil ouais. National plus une peur. Chronique et viscérale de savoir ce qu'on va devenir demain, voire dans deux heures. Je pense que c'est vrai qu'on se dit on va pas s'embarrasser de se demander comment on va, parce qu'en plus la réponse on la connaît, etc. Mais moi je milite beaucoup pour le retour du comment ça va.
Eh ben écoutez, ça c'est une bonne chose qu'on se remette à se poser la question et surtout qu'on entende la réponse et qu'on l'écoute. Ça c'est aussi pas mal important. Alors vous aviez fait votre premier spectacle que j'avais vu et que j'avais adoré. Bon, rire
merci,
aux larmes. C'est Virginie Gage la française qui débarque, qui se dit je suis sioniste, je vais y arriver. Puis qui se retrouve devant une réalité israélienne à laquelle elle n'était pas forcément préparée, et tout ça avec énormément
voilà,
de répartie et d'humour. Et puis, là, vous avez fait un spectacle après, le 7 octobre, qui s'appelle En guerre. On va donner tous les détails après. Moi, je voudrais vous demander comment est-ce que vous avez réussi à faire de l'humour après le 7 octobre. Il n'y a évidemment pas de jugement dedans. C'est une vraie question.
Non, mais oui, bien sûr, c'est une vraie question. D'abord... À la base, moi, j'écris beaucoup tout le temps. C'est un peu ma façon de m'exprimer. C'est un peu... voilà, il y a des gens le matin, ils se demandent ce qu'ils vont faire de leur journée. Moi, c'est pareil. Et en fait, à chaque fois que j'ai une espèce d'angoisse, quelque chose qui me pèse, j'écris, entre autres. Donc, j'ai été très active sur les réseaux sociaux avec pas mal de partages. Après le 7 octobre, j'avais commencé à faire un peu mon journal intime sur Facebook et Instagram. Et j'ai contacté Gadi Bi, qui est le directeur du Centre communautaire de Paris, qui est un copain. Et je lui ai dit, j'aimerais bien transformer ce que j'ai fait en spectacle vivant, peut-être lire des choses sur scène, etc. Finalement, on finit par caler une date. Donc, je reprends tout ce que j'ai écrit depuis le 7 octobre. Et je me suis dit, mais ça va être boring, ça va être plombant. C'est impossible de faire ça, quoi. Et puis surtout, après le 7 octobre, il y a eu beaucoup de sidération. Mais après, on est rentré dans d'autres phases. Et donc, je ne pouvais plus lire ce que j'avais écrit le 8-9 avec la même énergie que le mois de mars ou d'avril. Et donc, j'ai décidé de tout reprendre et d'écrire un spectacle d'humour. Je ne sais pas si on pourrait vraiment qualifier. Il y a des moments très drôles, mais il y a des moments aussi qui ne le sont pas. J'avais très envie de raconter comment est-ce que j'ai vécu le 7 octobre, comment j'ai vécu cette sidération. Les stand-upistes israéliens se posent absolument pas la question, puisqu'on a vu passer sur les réseaux sociaux des passages à mourir de rire sur le 7 octobre, pas évidemment sur le 7, parce que le 7, on était tous à genoux, et on l'est encore aussi
bien
un
sûr.
Peu. Mais sur l'après, enfin, je veux dire, sur la façon dont on... Moi, je le dis sur scène, mais les gens nous détestent. Je me rendais pas compte à quel point on suscite
vous
une
saviez
haine
pas
viscérale. Alors,
vous
non,
pas
j'ai découvert avec cette acuité-là. Donc, je débarque un peu, je me suis pris ça dans la tête. Et à côté de ça, je parle de choses qui sont profondément drôles. Enfin, je veux dire, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert un livre de Tehilim. Et donc, je raconte ça, je raconte les cours de Torah que j'ai fait, parce qu'on se raccroche à tout ce qu'on essaie de se raccrocher. Moi, j'ai deux filles qui sont très croyantes. très pratiquantes, très mystiques, qui me disent « ne t'inquiète pas, le Mashiach va venir ». Enfin, donc tout ça, c'est drôle parce que c'est le décalage aussi avec...
Elles habitent avec vous ? Elles vivent chez moi, et donc ça fait des moments
un peu chelous. Ouais. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc le spectacle, il est né comme ça. Et j'avais envie sur, et je l'ai appelé En Guerre parce que je me suis dit, moi, Virginie, née en 1976 à Paris, dans le 20e arrondissement, qui a appris toute ma vie à l'école que je vivais dans un pays en paix, que la guerre, c'était quelque chose de passé. Je vis en Israël depuis 10 ans. On a vécu des moments sécuritaires tendus. J'ai vécu 2014. Je sais qu'il y a des moments où on rentre dans Gaza, il y a des moments où il y a des attaques, etc. Mais être en guerre comme ça, entendre à la radio qu'il faut absolument qu'on ait des néons qui soient indépendants d'une prise s'il n'y a pas de courant et qu'il faut 6 packs d'eau par personne et aller visiter un miklat pour savoir comment on va s'organiser, c'est la première fois que je vis ça. Donc moi ça m'a perdu parce que moi
si vous avez senti qu'on avait passé on était passé à la vitesse supérieure
et j'ai senti surtout que moi j'étais pas du tout armée pour ça. Que moi toutes les guerres que j'ai menées dans ma vie, je les ai perdues. Sauver mon couple, je l'ai perdu. La guerre contre la panière de linge, je l'ai perdu. La guerre contre les kilos, ouais, je l'ai perdu. Donc là, je me suis dit, comment je vais faire avec cette guerre-là? Et c'est ce que j'essaie de raconter sur scène. Et donc, parfois, c'est drôle. Parfois, c'est émouvant. Parfois, c'est un peu triste. Mais c'est un peu la... C'est un peu ce qu'on vit aussi depuis le 7 octobre.
Vous nous faites aussi une vague émotionnelle.
Oui.
C'est-à-dire, non, voilà. C'est pas...
ouais. Des grands moments de désespoir, mais aussi des grands moments d'espoir, de joie, voir tout un peuple qui se réunit comme ça, qui se ressoude. Alors évidemment, ça craquelle de temps en temps, mais voilà, donc j'ai essayé de compliquer tout ça.
Où est-ce que vous avez mis, justement, vous nous parlez de cette tempête émotionnelle par laquelle vous amenez les spectateurs, donc le rire aux larmes, les larmes de tristesse, le choc, la sidération, le moment un peu plus complexe de réflexion. Où est-ce que vous avez placé les limites? Est-ce que ça fait partie de ce genre de circonstances où nous, on est concernés, donc on a le droit d'en rire, mais attention, pas les autres, parce qu'on en est encore là.
Je me pose pas la question. Ce qui me fait rire, je le mets sur scène. Ma seule limite, c'est si ça me fait pas rire. Je le raconte sur scène. À 2h du matin, j'ai reçu un WhatsApp me disant, c'était au mois de novembre, je crois, sur un des milliards de groupes qu'on a, me disant, il y a un bataillon de soldats de Tsahal qui doivent rentrer dans Gaza, ils n'ont pas de casque homologué. Il est 2h du matin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Baba? Je suis dans mon lit. C'est ce que je dis sur scène. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? J'ai des liens cachés pour aller trouver des hugs sur AliExpress, mais pas pour aller trouver des casques homologués. Donc tout ça, je raconte. Je me moque absolument pas de tout ça, mais je raconte ouais. qu'on se retrouve quand même dans une situation qui parfois peut prêter à sourire. Et j'essaie d'en faire quelque chose qui nous concerne tous. Je pense qu'on a tous, en tout cas ceux qui sont en Israël, on a tous vécu ces moments de grande, grande solitude à recevoir des messages WhatsApp à des heures indues où on s'est dit, mais qu'est-ce que moi, pauvre petit civil, je peux faire à ce moment-là? Donc voilà. Donc les limites, je me suis mis mes propres limites. Quand ça sort pas, je cherche pas la vanne. Mm-hmm. J'ai raconté ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore aujourd'hui parce qu'on est rentré dans une autre phase. Et je l'ai proposé sur scène à Paris et ça a été un moment magique de cohésion, vraiment d'émotion avec les Juifs de France qui étaient venus me voir.
Alors, est-ce que vous avez reçu des critiques négatives, c'est-à-dire oh, écoute, est-ce que c'est déjà le moment d'en rire? Il y a tellement de familles qui sont endeuillées.
Alors, je vais être parfaitement transparente. J'ai fait ce qu'on appelle des filages. Quand on prépare un spectacle, normalement, on le teste sur des scènes ouvertes. Moi, il se trouve qu'il n'y a pas de scène ouverte en français. On teste des petits passages pour le roder d'abord, pour voir comment ça teste, comment ça répond, etc. Et donc, comme j'ai pas pu le faire sur une scène ouverte, je l'ai organisé ce qu'on appelle chez des amis. Donc, je l'ai fait à Tel Aviv, à Natania et à Rahanana. Et c'est vrai qu'à Rahanana, par exemple, c'est pas spécifique à Rahanana, je le dis parce que j'ai beaucoup de copines qui sont des mères de soldats et qui m'ont dit que je parlais pas assez des soldats. Et je comprends. Et j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit, franchement, si on m'avait dit que c'était sur ce thème-là, je serais pas venue. C'est pour ça que quand les gens me disent, mais c'est un spectacle d'humour, je sais même pas quoi leur répondre. Je dis, c'est un spectacle vivant où j'essaie de raconter ce qu'on a vécu depuis le 7 octobre. Et comme moi, je prends le parti de me de rire de tout ce qui nous arrive, je le fais sur ce mode-là. J'ai pas reçu des critiques, mais j'ai reçu des remarques de gens qui
ne comprenaient
pas ce que je faisais.
Constructive,
oui, mais ou alors des gens qui étaient un peu perdus, et je peux comprendre, et je peux comprendre.
D'accord.
Mais je pense très sincèrement que notre grande force, elle est là. Je déteste ce mot, donc je vais l'employer juste, mais c'est pas le mot, je le déteste, mais la résilience, j'en peux plus.
Vous détestez ce mot-là?
Ah, j'en peux plus parce que ça me saoule en fait, parce que on n'a pas besoin de ce qui nous est arrivé pour rire de ce qu'on a vécu. Ça fait des siècles et des siècles. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de plus de malheur que ça, nous. Mais je pense très sincèrement que notre capacité à continuer d'avancer, à continuer de danser, à continuer de chanter, d'organiser des fêtes, d'être dans la simra, je pense que mon spectacle, il participe de ça. Ouais. Et je comprends qu'il y ait des gens qui soient pas dans ce mood-là. Vraiment, il n'y a aucune obligation, quoi. Donc, oui, j'ai reçu des critiques, mais des remarques de gens qui m'ont dit, mais pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Moi, je le fais parce que j'en ai besoin. Je me dis, si mon besoin rencontre le besoin de certaines autres personnes, bah, c'est super. Voilà.
Quel message vous essayez de véhiculer à travers ce spectacle? À part exprimer votre propre... Non, je veux dire, j'ai bien compris que c'est votre manière d'extérioriser et j'aimerais bien que ce soit la même pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est la violence, l'alcool,
c'est
la drogue,
dur,
la dépression.
Oui, bien.
Vous, c'est la vôtre et c'est super.
Addictions. Oui,
voilà.
Moi, j'essaye. En fait, ce que j'essaie de. J'ai écrit ce spectacle parce que j'avais envie de rencontrer les gens et j'avais envie qu'on s'en parle. On parlait tout à l'heure au début de la conversation de la difficulté de se demander comment on va. Pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, on se parlait sans se parler.
Ouais.
C'est-à-dire que c'était très compliqué. On se regardait intensément en disant « Mais mon Dieu, mais c'est pas possible. » Tous les matins, on se réveille avec une liste de soldats à la radio. Il y a un matin où on a perdu 24 soldats, je ne me souviens plus. Mais c'était interminable. J'avais envie de crever, quoi. Mmh. Et je monter sur scène, c'est une façon de continuer de se parler, de continuer de s'en parler. Et moi, je tous les soirs, quand je le joue, je l'ai pour l'instant joué deux fois. Là, je suis en train de retravailler le texte pour préparer les prochaines dates. J'ai écrit ce spectacle parce que j'ai envie qu'on retrouve l'espoir. J'ai envie, moi, de retrouver l'espoir et la vie dans tout ce marasme.
La lumière au bout du tunnel, quoi.
Voilà, mais exactement. Ouais, mais exactement. Je cherche l'interrupteur.
Ouais, il va falloir.
Et à ce moment-là, on le trouve. Voilà, c'est ça.
Où est-ce que vous jouez prochainement? Quand est-ce qu'on peut vous voir? Comment on doit faire? On va mettre tout ça en lien, évidemment, sur notre podcast. Mais pour ceux qui nous écoutent à la radio maintenant, tout de suite, comment est-ce qu'on peut vous retrouver?
Alors, le 3 et 4 juin, je joue en Israël. Je suis très, très, très heureuse. Le 3 juin, je joue à Tel Aviv, au Zoa. Le 4 juin, je suis à Natania, au Echal HaTarbout, à Raziel. Toutes les informations sur les dates israéliennes, elles sont sur Culture Access. Il faut réserver, ça se passe maintenant. Mm-hmm. Je suis le 28 mai à Levallois, au centre communautaire de Levallois. Donc, il faut aller sur le site du centre communautaire de Levallois. Et le 29 mai, je suis au centre communautaire laïque juif de Bruxelles. C'est pareil, il faut aller sur les sites de ces salles ou alors il faut aller sur mon Instagram et je réponds à toutes les questions. Vous avez toutes les informations sur mon site, sur mon fil Instagram. Et voilà, je suis très 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 heureuse de jouer ce spectacle, mais je suis particulièrement heureuse et honorée de le jouer en Israël les 3 et 4 juin prochains.
Eh ben, on peut vous souhaiter uniquement beaucoup de chance et de créativité pour ce nouveau spectacle Virginie Gedge. Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à toi, merci infiniment.
Et à très bientôt sur Canon Français.
À très bientôt.
שבאת הביתה עשית אמבטיה השקפת את הילד לישון הוא חיכה לך שאל איפה אבא לא ידע שהלכת להביא את השלום שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון חולם על המקום הזה ביום שנפסיק בו ללחום ונתחיל בו לנשום מהר כמה הים המתגבר ומשתפר גורר יחס גורר יחס גורר שמחה וחיוך אהבה ותמימות שחרור שני עמים מעבדות לחירות בנות על הצריח במקום חיילים פרחים בקנים במקום פגזים חלמתי על היום התעוררתי בדמעות תקשיבו ואתן לכם לראות
השמש תיגע לעזוב ללכת הרי אומרים שני מקום שני מזל אכן להסתתר מיד הגורל אז נשארנו לנו כאן ובנינו לנו בית האמנו ביונה בשלום בלה של זית ועמדנו בהמנון ושירתנו בצבא וקברנו חיילים ובכינו בשבעה נפלנו לבטליים ושוב על הרגליים ועזו הכדורים נלחמנו בידיים ונשמר לנו הזין לחכות לשלום אני אפסיק את זה לחלון שלי בידום
אחרי 56 שנים של הגנה על הבית כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום
השמש תדום